Interdire les licenciements serait une utopie. Alors, les capitalistes, quand on leur a dit les enfants de moins de 12 ans pourront plus travailler, ils ont dit vous êtes fous, vous voulez notre faillite. Quand on a dit aux capitalistes vous allez payer deux semaines de congé aux salariés en 36, ils ont dit pareil, vous n'êtes pas bien, on va tous faire faillite. En 45, on leur a dit vous allez doubler les salaires et financer la sécurité sociale. Ils ont dit exactement pareil, vous êtes cinglés, on va faire faillite tous. On va tous couler. On constate que les capitalistes s'en sortent toujours du moment qu'ils restent propriétaires de la production, ils s'en sortent. Donc ici, on va nous dire que c'est utopique d'interdire les licenciements, mais moi je suis sûr que si on arrive à une loi qui interdit le licenciement, je suis sûr que les capitalistes vont s'adapter, vont toujours s'en sortir.
Dans une note du 7 mai, l'INSEE a établi que 453 000 emplois, dont 300 000 intérimaires, ont été détruits au premier trimestre 2020. De plus, un employé sur deux en CDD a perdu son emploi ce même premier trimestre. Enfin, le nombre d'inscrits en catégorie A à Pôle emploi a grimpé de 24,5%, cette fois au second trimestre. Dans ces conditions, plusieurs organisations politiques arageoises reprennent ce mot d'ordre. Les licenciements, notamment économiques et boursiers, doivent être interdits, d'autant plus dans les entreprises qui reçoivent des fonds publics ou des prêts garantis par l'État. Ces organisations, la France Insoumise, le PCF 62, le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique, le Parti de Gauche et la section 59-62 du Parti des Travailleurs Tunisiens, se sont constituées en comité pour l'unité pour l'interdiction des licenciements. Nous avons donc rencontré Natacha Galego, René Chevalier, Christian Guffroy, Frédéric Beunier, Ali Guettari et Zied Ben Abdeljelil lors d'une conférence de presse donnée le 25 août à Arras. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux, là, à l'heure actuelle? Est-ce que les licenciements ont été comptabilisés? Quelle est la hausse du chômage? Quels sont les chiffres, en fait? Essayez de rappeler le diagnostic.
Nous sommes encore en congé, hein. Donc c'est très difficile, mais là, à la rentrée, dans les 15 jours qui vont suivre, on va savoir exactement ce qui se passe au plan local. Au niveau national, bon, c'est bien, il prévoit 453 000 emplois en moins, hein, donc dans toutes les grandes entreprises, quoi. Donc ça va être très compliqué. Donc la rentrée va être très chaude, sachant qu'il y a un appel à manifestation le 17 septembre. Il y a déjà un mécontentement qui est travaillé. Bon, pour l'instant, les gens sont dans la tête, ils sont encore en vacances, mais après ça va se concrétiser par des actions.
24-25% au second trimestre des inscrits à Pôle emploi qui a augmenté aussi, rien qu'au second trimestre, sans parler du premier trimestre où il y a eu les premières personnes qui ont été licenciées. Il y a les 800 000 jeunes qui arrivent à la recherche d'un emploi aussi cet été, cet automne et pour le reste de l'année. Donc le constat, il est assez...
Les chiffres officiels, hein, officiels que... J'entends moi la télé, que je lis à travers les journaux, il y a 4 200 000 chômeurs effectifs dans le pays. 4 300 000 chômeurs. Bon, il faut savoir qu'avant le confinement, on était descendu à 3 200 000, donc il y a 1 000 000 de chômeurs en plus. En plus, depuis le début de l'épidémie, enfin depuis le confinement jusqu'à aujourd'hui, mais il va s'ajouter le mois prochain, c'est-à-dire dans une semaine, comme elle vient de dire ma camarade là, les 800 ou 700 000 enfants qui vont rentrer, les jeunes qui vont rentrer sur le marché de travail. Il y a aussi une bonne part de travailleurs intérimaires qui ne seront pas reconduits. Leur mission s'est achevée soit pendant le confinement, soit après le confinement, mais ils ne seront pas reconduits. Il y a beaucoup de travailleurs à mi-temps qui ne seront pas reconduits. Malgré tout cela, il y a des appels de partout dans les entreprises publiques ou privées pour que l'on embauche parce qu'on a besoin de monde, pour faire redémarrer l'économie, mais c'est, là aussi c'est un vœu pieux, hein. Les oreilles pour certains, ils sont sourdes. Hein.
Ce qu'on sait, c'est ce qu'on a lu dans la presse à l'INEA, le magasin de Noyelles-Godeau. Les salariés ont manifesté, ils sont une cinquantaine, le magasin va être fermé, ils sont licenciés. Pickwick à Arras ferme, bon, les salariés sont licenciés. J'ai discuté avec eux, ils disent que bah, il n'y a pas de reclassement, ou alors il faudrait qu'ils aillent dans un magasin à 300 km. Ils ne font pas ça, donc ils vont disparaître. Tout ça, ça va se décliner à la rentrée petit à petit. Nous, on écoute ce qui est annoncé. Hein. Renault 4500, Maubeuge, bon, ils ont reculé parce qu'il y a eu une grosse manif, mais d'ici un an, ils vont parler de refermer Maubeuge, quoi. Airbus, Air France, Nafnaf, Alinéa, Engie, Daher, De Richbourg, Ford, General Electric, Boiron, Sanofi, les laboratoires pharmaceutiques qui licencient, franchement, ils en profitent tous, quoi, la halle, c'est ça, et plus, moi je suis conseiller du salarié, des salariés commencent à m'appeler, là c'est la rentrée, et c'est des licenciements individuels, quoi. Les patrons, ils ont besoin de personnes en trop, ils trouvent la faute, licenciés, allez hop, ils sont en train d'apurer les effectifs comme ça, quoi.
Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit, je résume, qu'on était en train de financer les restructurations. On peut avoir du mal à comprendre la logique, parce qu'en général, c'est quand même les emplois et le travail qui produit de la valeur. Alors, quel est l'intérêt, là, des détenteurs de capitaux privés, des entrepreneurs, en fait ?
Il y a une autre manière, mettons, ils ont trouvé une autre manière de pouvoir acheter sans pouvoir embaucher, sans pouvoir créer de l'emploi. C'est ce qu'on appelle la digitalisation. C'est Mullier, on revient sur Mullier, par exemple, préconise dans le temps ce qui s'est créé pendant le Covid-19, l'achat par Internet. Et ils vont se servir de ça. Là, ils sont en train de restructurer et de réfléchir à ce système de digitalisation pour pouvoir faire en sorte de maintenir les magasins avec un minimum de personnel tout en vendant un maximum. C'est ce qu'on a. Ils se servent de ça par le biais de l'Internet. Déjà, ça, c'est nouveau. Ensuite, effectivement, l'argent, ils savent que maintenant, ils sont aidés par l'État et par les banques. Les banques, ils donnent et l'État, ils versent par-dessus. On le voit bien. On le voit bien que c'est un micmac financier qui est bien capitalisé et que ça va rendre service aux multinationales. Ça, c'est clair, net et précis. Il y aura des heures supplémentaires. Il y a des gens qui feront des heures supplémentaires. Avec un minimum de personnel, il y a des heures supplémentaires. En 2018, la CGT, il y a une centrale de la CGT qui a fait les calculs, il y avait à peu près... En 2018, le nombre d'heures supplémentaires était l'équivalent de 542 000 emplois.
En général, quand on parle du capitalisme et des actionnaires, on nous dit « Mais vous savez, ceux qui font la croissance en France... » C'est les 80% de petites et moyennes entreprises, ou 90% de petites et moyennes entreprises et de commerces qui font vraiment l'emploi et qui font marcher la croissance. Mais c'est comme quand on parle d'une voiture. S'il n'y a pas de moteur, ces gens-là ne fonctionnent pas. Donc quand on parle de ces grosses sociétés qui ne sont pas solidaires, elles ne sont pas seulement solidaires vis-à-vis des travailleurs, mais vis-à-vis de toutes leurs filiales, de toutes ces sociétés petites et moyennes entreprises qui attendent des marchés de ces grosses entreprises et de ces salariés qui vont dépenser leur argent dans la société et font faire marcher ces commerces. Tout ça, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, c'est un cercle. C'est un cercle qui tourne et qui va sur eux-mêmes. Et si ce moteur-là coince et qu'on continue à l'abreuver de milliards qui, eux, vont partir dans la finance, eh bien, tout le reste crève. Et c'est pour ça qu'il y a du chômage. Parce qu'effectivement, il y a des grosses sociétés comme Renault qui licencient ou qui délocalisent. Mais ça fait tomber combien de petites entreprises et moyennes entreprises, le fait que Renault délocalise ? Une entreprise de 4-5 000 salariés, ça peut faire vivre à côté 40 à 50 000 personnes dans des petites et moyennes entreprises. Donc la politique de cette entreprise, si elle est mauvaise et qu'elle est uniquement centrée sur l'intérêt des actionnaires, eh ben, toutes ces petites entreprises s'écroulent. Et c'est ce qui se passe en France.
Tu as posé une question, tu as souligné l'absurdité du truc. Les entreprises, les fabricants de bagnoles... C'est pas à cause du Covid qu'ils vendent pas leurs voitures. Les parkings de Renault sont pleins de voitures qu'ils peuvent pas vendre. Donc quand Renault annonce qu'il va fermer 4 sites, c'est parce que ça s'appelle détruire la production. parce qu'ils n'arrivent plus à vendre, ils n'arrivent plus à dégager leurs profits en vendant la production. Donc c'est un système complètement idiot, absurde, où on fait de plus en plus de chômeurs et de pauvres qui ne pourront toujours pas acheter ce que les fabricants vont fabriquer, quoi. C'est le truc qui est complètement absurde. Je voudrais dire un truc, c'est en dehors, là, c'est comme une espèce de conclusion. Ici, on a appelé ça un comité pour l'unité. On n'a pas dit comité unitaire. On en a discuté, parce que l'unité, elle n'est pas faite. On a réussi à la faire à ce petit endroit local de la région d'Arras. On aimerait bien que l'unité gagne les mêmes organisations pour le département et pourquoi pas au niveau national. Donc le combat ici d'un petit comité comme ça, c'est comme a souligné Zied, l'important c'est que les travailleurs s'emparent de ça et fassent pression pour que les licenciements soient interdits. On sait bien que c'est pas les députés et Macron qui vont faire une loi en disant on interdit de licencier, c'est pas possible. Ça viendra de la base et des travailleurs eux-mêmes. Notre comité... Il y a plusieurs comités en France. Pour fédérer ça au niveau de la France, on organise une réunion nationale des délégués des comités le 19 septembre à Paris, une rencontre nationale pour essayer justement de faire grimper cette unité au niveau national. Voilà.
On est fin août, à quelle rentrée sociale on peut s'attendre ?
On espère que d'autres syndicats suivront la CGT. Au vu de ce qui va se passer, je crois que le plan de relance va être bientôt annoncé par le gouvernement. Comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va continuer, non pas comme Macron avait dit, on va continuer ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire qu'on va favoriser l'offre et pas la demande. Et donc, on va donner encore de l'argent et beaucoup d'argent aux sociétés, à la société capitaliste sans contrepartie. Et je pense que, évidemment, les syndicats ne seront pas d'accord pour que l'axiome travail soit la seule valeur qui soit, réduite et qui soit la variable aléatoire du capitalisme, ce qui est toujours le cas.
Pour votre question, pour la rentrée. Il y a une crise sanitaire qui va aggraver davantage la crise économique. La crise économique, elle est là, même avant le Covid. En fait, ils profitent bien de cette épidémie, de cette pandémie, pour passer toutes, entre guillemets, les réformes qu'ils voulaient passer avant. Donc, il y a une crise économique aggravée par le Covid, et il y a des mesures contre la classe ouvrière. C'est le président qui annonce 800 000 licenciements. C'est le président qui dit « Préparez-vous à 800 000 chômeurs de plus ». C'est plus un chiffre objectif, c'est une politique d'État. C'est encore pire. Nous, on pense que la rentrée scolaire, l'année 2021-2020, fin 2020-2021, sera une autre fois, comme la fin de l'année 2019, début 2020, il y aura un conflit. Il y aura une crise socio-économique et une crise politique. Avant, c'était par rapport à la réforme de la retraite. Maintenant, ça sera sur le travail. La question, maintenant, est la suivante. La crise, elle est inévitable. Hein. Le conflit, il est inévitable. Maintenant, la question est la suivante. Est-ce que les organisations qui défendent la classe ouvrière et qui représentent la classe ouvrière syndicale ou politique, est-ce qu'elles vont travailler ensemble pour les intérêts de classe ouvrière ou non? Nous évaluons en tant que Parti de travailleurs tunisiens section France que l'unité n'était pas au rendez-vous pendant la crise de la réforme de la retraite. Il y avait des syndicats qui étaient pour partiellement, il y avait des syndicats qui étaient contre, tous les partis politiques de gauche étaient contre, mais il y en a ceux qui ont essayé de trouver une solution, il y en a ceux qui ont appelé à la fin de tout ce système qui cause des problèmes pour la classe ouvrière. Pour moi, ce qui est critique, c'est pas le mouvement social. Les gens, lorsqu'ils ont faim ou lorsqu'ils voient un danger, ils vont bouger, ils vont attendre personne. La preuve que la grève générale a été lancée par des syndicats de base. La grande question pour nous, c'est que est-ce que les partis politiques et les syndicats seront au rendez-vous ?
Justement, la question des licenciements, de l'interdiction des licenciements, ça peut créer cette unité ?
Nous avons, nous, le droit de prendre conscience que nous sommes au combat. Il faut dans la classe ouvrière qu'il y ait une prise de conscience, mais qui va jusqu'au fond des tripes.
Justement, ma question, c'est est-ce que les licenciements, ça peut être justement cette espèce de matrice qui va fédérer et qui va...
C'est une étape, mais il y en a d'autres. Mais l'essentiel, c'est au-delà des étapes, dans le subconscient général, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Tant que nos responsables des appareils au plus haut niveau, que ce soit syndical ou politique, n'ont pas pris conscience du danger et qu'ils n'appelleront pas par des mots d'ordre, pas par des slogans, par des mots d'ordre bien ciblés sur telle ou telle action, dans l'unité, n'avancera pas. Il faut qu'on soit conscient de ça.
Tu nous demandes si l'interdiction des licenciements peut être le moyen de faire un front unique, en fait. La classe ouvrière, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a son travail, c'est tout pour vivre. Quand un président annonce qu'il va y avoir 1 million de licenciements, de suppression d'emplois, quel est le mot d'ordre le plus à même de faire l'unité ? C'est vraiment de dire à ce président, tu déconnes, les licenciements, il n'y en aura pas, il faut les interdire et les travailleurs vont s'en emparer. Nous, on pense, peut-être qu'on se trompe, mais on pense que c'est le mot d'ordre qui peut fédérer toute la situation sociale actuelle et toutes les luttes sociales, quoi.
Tout à l'heure, on parlait de 7000 licenciés à Airbus. Ce n'est pas 7000 licenciés à Airbus, c'est 7000 familles qui vont en souffrir, qui vont être impactées. Alors, le pouvoir d'achat, etc. Voilà, on s'en fout. Enfin, c'est un vrai problème. La situation, là, elle est à un point où, à un moment donné, ça va vraiment craquer.
Ce reportage a été réalisé lors de la conférence de presse du CUPIL, Comité pour l'unité pour l'interdiction des licenciements, le 25 août à Arras.